Michel Fitoussi, bonjour.
Bonjour Emmanuel Adam.
Merci de nous avoir reçus chez vous, à Paris, dans votre cuisine, pour parler de votre dernier livre, celui dont tout le monde parle en ce moment. Alors Michel, vous êtes journaliste, reporter, vous êtes également autrice de nombreux ouvrages, hein, plus d'une dizaine déjà. Et là, vous avez même écrit des biographies, et là c'est un peu votre autobiographie que vous nous offrez avec ce dernier ouvrage. Alors, le livre, c'est un voyage, et avec le vôtre, eh bien, on part au cœur de la Tunisie, au cœur de la communauté juive de Tunisie, et au cœur de votre famille. Et puis, pour parler d'une communauté si vivante, si vibrante, eh bien, vous avez choisi de commencer le livre par une visite au cimetière, visite chez les morts. Vous êtes allé en famille. Le livre commence comme ça, et c'est pour ça aussi qu'il s'appelle « La famille de Pantin » ou « Ma famille de Pantin », on peut dire, puisque c'est vraiment votre famille que vous êtes allé voir au cimetière de Pantin. Et vous écrivez une chose très, très, très douce et en même temps très, très fine. Vous dites « C'est aux vivants que je m'adresse et c'est aux morts que je murmure, mais c'est aussi à moi que je parle. À travers notre histoire, c'est la mienne que je cherche et c'est moi que je veux retrouver. » Alors en fait, on a l'impression que on fait ce voyage avec vous, hein, tout au long du livre.
C'est ça, c'est-à-dire que la scène que vous évoquez, la première scène, celle qui ouvre le livre, la scène du cimetière, la scène de la famille Pantin, puisque c'est comme ça que ma tante, ce que j'appelle tante Pim dans le livre, s'adressait à nous en disant au moment des fêtes, il est temps d'aller voir la famille Pantin, donc la famille du dessous, oncle, tante, grands-parents, mère. Cette scène-là, je l'ai tournée et retournée dans ma tête très longtemps parce que j'en saisissais vraiment le comique à la fois et la tristesse, quoi. Et puis c'est vrai que les noms des Juifs m'ont toujours fascinée, les pierres tombales aussi. C'est un peu l'histoire et la géographie du monde, c'est leur exil, comment ils sont partis. J'imagine toujours tout ça. Et à partir de là, j'ai vraiment eu envie de raconter cette histoire, l'histoire des Juifs de Tunisie que on a raconté souvent, mais pas tant que ça non plus, que j'ai entendu chez moi, mais pas tant que ça non plus. Je dis, à un moment, il parlait trop, mais il ne disait rien. C'est vrai que la faconde juive, et la faconde juive séfarade, c'est de beaucoup parler avec les mains, souvent, mais de pas forcément dire l'essentiel. Et donc c'est vrai que c'est un voyage que j'ai voulu entreprendre. Et je me suis rendu compte très vite que c'était un voyage que j'entreprenais pour moi. J'ai beau raconter que c'est pour mes enfants, pour mon petit-fils, pour ma famille. J'avais envie de savoir moi où j'en étais par rapport à toute cette histoire. Je suis arrivée en France, j'avais 5 ans, en 1959. J'en ai 68 aujourd'hui. De quoi ai-je hérité? Quelle est ma construction? Est-ce qu'il fallait que je me déconstruise pour pouvoir tout comprendre? Je me suis rendu compte en cheminant dans ce livre que oui, et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre.
Et en fait, quand vous parlez des morts, on les sent présents tout au long du livre. Vous dites d'ailleurs à un moment qu'ils sont au-dessus de votre épaule, ils sont derrière vous, ils sont autour de vous. Est-ce qu'on peut parler d'une histoire un peu transgénérationnelle comme ça qui revient avec le temps chez vous? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi particulièrement maintenant? C'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est lié à nos âges? Est-ce que c'est lié à une situation particulière autour de vous, dans votre famille?
En réalité, il y a une trentaine d'années, j'ai voulu écrire un roman qui se passait en Tunisie entre les années 30 et 50, dont les protagonistes seraient mes grands-parents et mes parents. Et j'ai interrogé ma grand-mère, que j'appelle Sarah dans le livre, ma mère, ma grand-tante, mon oncle Pat dans ce livre aussi. Ils sont tous morts. Je regrette de ne pas les avoir interrogés avec un magnétophone, mais j'ai pris des notes. J'ai écrit le roman. Je sortais de deux énormes succès d'édition. Mon éditeur n'a pas aimé ce livre pour des tas de raisons. Au lieu de me dire je vais le recommencer ou je vais l'améliorer, j'en étais très vexée. Donc je l'ai mis dans un tiroir et je ne l'ai plus touché.
Bon, c'est une question de timing. Hein,
c'est une question de timing. Et je pense que là, mon éditeur actuel m'a dit ne n'écris surtout pas de roman. Et il m'a donné cette liberté-là. Et effectivement, j'ai usé dans ce livre d'une liberté folle, où je ne sais pas si c'est un sujet à l'autre, toujours pour revenir à moi et au mien, mais avec beaucoup, beaucoup de chemin de traverse et de digression. Et ça m'a plu vraiment de l'écrire sous cette forme-là.
Alors, vous parlez beaucoup de enfin, ce livre parle de nostalgie, hein, en tout cas pour ceux qui ont connu la Tunisie à cette époque. Mais ce qui est intéressant, et vous le dites bien dans le livre, c'est que pour vous, le départ de Tunisie, c'est pas la nostalgie qui était présente particulièrement, parce que vous, c'est un peu comme si vous étiez préparée à l'avance à ce départ. Vous considériez déjà comme française, comme vous écrivez très bien. Et du coup, eh bien, l'exil, l'exode, a fait qu'en France, vous vous êtes sentie tout de suite très bien intégrée, pas de problème d'adaptation, la langue, vous la maîtrisiez parfaitement. Et donc, de quelle nostalgie vous parlez ?
C'est une nostalgie plus profonde, c'est probablement une nostalgie due à l'âge, au temps qui passe, aux souvenirs qui ne seront plus des souvenirs. C'est peut-être une nostalgie que j'ai empruntée aux Juifs des pays de l'Est, à ces villes qui ne sont plus, enfin qui étaient peuplées de Juifs et qui ne le sont plus, Vienne, Lvov, Cracovie, Odessa, et puis les villes comme Bagdad aussi, les villes comme... Et ça s'applique très bien à Tunis et à la Tunisie. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, si vous voulez. Et cette nostalgie-là, c'est... Je suis partie en Tunisie, j'écris à un moment, je ne sais pas si je cherche les traces de leur présence ou de leur absence. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est ce vide-là que les Juifs qui sont partis plus ou moins forcés, plus ou moins contraints, avec de la chance comme les Juifs des terres d'islam, ou beaucoup de malchance comme les Juifs des pays de l'Est, vont laisser ces traces de leur passage et de leur absence. Je crois que c'est cette nostalgie beaucoup plus générale que j'ai, et probablement une nostalgie fantasmée aussi. Je suis nostalgique de la nostalgie. C'est une nostalgie aussi très littéraire, je dois avouer, vraiment. Mais elle est présente en moi.
Elle est présente et vous l'avez... elle ne vous manquait pas et puis tout d'un coup, elle s'est mise à vous manquer.
C'est ça.
Ce passé vous a manqué quelque part et vous êtes allé le chercher. Et vous avez fabriqué, avec vos mots, hein, c'est pas une fabrication fantasmagorique, c'est votre vraie histoire, mais vous avez reconstruit ce passé que vous aviez mis peut-être un petit peu de côté.
Alors, je l'avais mis de côté. Et là, pour le reconstruire, je me suis dit... j'ai beaucoup lu. Je ne suis pas historienne, hein, mais j'ai lu des sociologues, bien sûr Paul Sebag, qui a écrit une magistrale d'histoire des Juifs de Tunisie. J'ai lu énormément tout ce qui est paru, j'ai compulsé des archives, etc. Et puis, je me suis dit, je ne vais interroger que les gens de ma famille. Et puis, quelques personnes qui vont pouvoir me donner des détails sur des moments précis, comme le 5 juin 67 à Tunis, ou des choses comme ça. Mais que les gens de ma famille pour rester vraiment dans ce cadre que je m'étais fixée, ce cadre vraiment familial. Donc, c'est très galvaudé de dire mêler la petite histoire à la grande histoire, mais raconter ma famille ne suffisait pas. Et raconter l'histoire des Juifs de Tunisie aurait eu un côté prétentieux parce que je ne suis pas historienne, parce que je ne suis pas sociologue. Donc, il me semblait pertinent de mêler les deux et de choisir des moments particuliers de cette histoire.
Alors justement, j'avais le sentiment en vous lisant que vous replaciez votre histoire personnelle et familiale au sein de la grande histoire de la Tunisie. Et vous avez un petit peu comme reconstruit des éléments qui nous manquaient. Hein. Vous avez ramené beaucoup de choses que nous, la seconde ou la troisième génération, on ne connaît pas toujours. Comme par exemple l'occupation allemande, l'occupation nazie de la Tunisie. J'ai retenu deux épisodes bouleversants de cette époque, des épisodes qui concernent votre famille. La scène où Sarah part à la Gestapo, hein, et puis celle de la redingote de Rommel, qui a été cousue par un tailleur tunisien de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous les raconter ?
Alors, la première histoire a été racontée... Alors, d'abord, je voudrais faire une distinction, même si les Juifs tunisiens qui peuvent écouter ce podcast vont bondir, mais... Je voudrais faire une distinction entre les Juifs de Tunis, les Tunis mémois, comme je les appelle, qui racontent toutes les histoires, même les plus tragiques, à la rigolade et qui minimisent. Et puis, il se trouve que mon père est soutien, une grande partie de ma famille est soutien. Eux ne prennent pas les choses à la légère et les racontent de façon beaucoup plus vraie, en réalité, que ces Juifs tunisiens d'opérette, entre guillemets, tunisois. Et donc, dans ma famille, on racontait les épisodes tragiques, avec beaucoup de rigolade, et moi j'ai vraiment compris le tragique quand je les ai vraiment creusé. Mon grand-père, les Allemands arrivent en Tunisie en novembre 1943, ils réclament des jeunes gens pour creuser, construire des camps de travail. Ces jeunes gens ne se présentent pas à la commande en tour. Rauf, le nazi en chef et Furax, il prend des notables en otage et il menace de les exécuter si il n'a pas son contingent de 3000 jeunes gens qui vont devoir construire ses camps de travail et y être enfermés. Il se trouve que mon grand-père, qui faisait partie des notables de la ville et fait partie de ses otages, qu'il est enfermé à la prison de la Casbah, et que ma grand-mère, totalement affolée, qui a déjà deux enfants, même trois, un enfant en bas âge, ma tante, se précipite, ignorant le danger folle qu'elle était, mais de toute façon, les Juifs n'imaginaient même pas quel funeste dessein avaient les Allemands pour eux. Hein. Ils ne savaient pas que les Einsatzgruppen partaient déjà de Grèce pour les exterminer, ils ne savaient rien. C'était des innocents, même s'ils écoutaient la radio, même s'ils avaient eu le statut des Juifs, etc. Et elle y va, et elle supplie, elle se met à genoux, elle supplie le commandant, le chef de la Gestapo, de libérer son mari qui est malade, le pauvre. Et bien sûr, elle se fait renvoyer dans ses cordes. Et alors, en désespoir de cause, elle est partie avec mon oncle qui a 16 ans, qui est un adolescent, et elle dit « prenez mon fils ».
Elle propose son fils.
Il est bien portant, il supportera la prison.
Ça pense un peu au choix de Sophie.
C'est ça. Mais elle ne s'en rend pas compte, parce que dans sa tête, c'est « ils ne vont pas lui faire de mal, mais mon mari, il est malade, il ne va pas supporter la prison, le pauvre. Donc mon fils, il est en bonne santé, s'il va en prison, ce n'est pas grave. »
Il ne mesurait pas le danger, en fait.
Elle ne voyait pas le danger. Et finalement, elle arrive, évidemment, le chef de la Gestapo l'a envoyé balader aussi, il a quand même consenti à ce qu'elle nourrisse son mari. Et que les femmes des prisonniers nourrissent leur mari, ce qui fait qu'il y a eu, j'imagine, un chassé-croisé de couffins remplis de couscous, de boulettes, de banatage, etc., que mon grand-père d'ailleurs partageait avec ses compagnons de cellules. Lui, ça a eu une suite tragique pour lui, parce qu'il a contracté une gangrène en prison, on n'a pas pu sauver sa jambe, enfin, ça a été très compliqué. La deuxième histoire que j'adore, que mon père m'a racontée, mon père a 95 ans, et il a une mémoire absolument phénoménale, et il a son journal, donc il m'a donné des pages de son journal, et c'est là que j'ai appris que mon grand-oncle Maurice, qui était tailleur, comme l'était son père, Mardoché, seul mon grand-père n'est pas devenu tailleur, comme l'étaient tous les hommes de la famille, était d'un tel savoir-faire que très vite les Allemands qui sont arrivés à Sousse et qui ont occupé l'hôpital du Lazaret ont mis un atelier pour fabriquer des uniformes nazis ou pour les réparer, et mon grand-oncle à sa tête, puisqu'il était vraiment très doué. Et un jour, branle-bas de combat dans l'atelier, et ce n'était pas très bien pour eux parce qu'ils échappaient ainsi au travail forcé. Mon grand-père devait creuser, travailler sur le port de Tunis, sous les bombardements, c'était très pénible pour lui. Il avait des rudiments de couture, donc mon grand-oncle l'a engagé aussi. Et un jour se présente fébrilement tout un aéropage de nazis avec à leur chef, à leur tête, et mon grand-oncle apprend que c'est Rommel. Et Rommel commande une redingote à mon grand-oncle et qu'il exécute en tremblant, et la redingote est si belle et elle le sied si bien à Rommel qu'il est ravi, qu'il vient se refaire faire des uniformes et qu'il dit à mon grand-père, à mon grand-oncle, vous allez me suivre en Allemagne.
Ah oui.
Et quand les Allemands doivent fuir parce que les alliés arrivent, il ramène mon grand-oncle chez lui et ils disent on vient vous chercher demain, et mon grand-oncle n'a de cesse que de fuir avec sa famille et réussit à s'échapper un peu dans la confusion, et il s'échappe à Tunis, où il va se cacher dans la crypte de la cathédrale en espérant que jamais Rommel ni sa clique ne le trouveront. Et donc, mon grand-oncle Maurice a été le tailleur juif de Rommel. C'est une histoire incroyable, c'est
incroyable.
Une histoire de roman, quoi.
Oui, complètement.
Et de film. Totalement romanesque, de film. Et j'ai adoré cette histoire, et je voulais absolument la raconter aussi.
Vous avez le sentiment que c'est un peu difficile pour nous, les Juifs séfarades, de parler de cette période de l'occupation nazie en Tunisie, en tout cas de parler de cette période de la Shoah, parce qu'on n'a pas souffert autant que les Juifs européens, que les Juifs ashkénazes, et que pour nous, c'était plus minime, même s'il y a eu des Juifs envoyés dans les camps de travail, même s'il y a eu l'étoile jaune, même s'il y a eu les nazis, l'occupation. On a eu ce complexe, en fait, par rapport aux séfarades. Vous avez ce sentiment?
Oui, bien sûr. C'était une évidence absolue. C'est vrai que quand la guerre était finie, quand la Tunisie a été libérée en 1943, et quand ils se sont rendus compte de ce qui s'était passé, de la destruction des Juifs d'Europe de l'Est, ils se sont tus, ils ne pouvaient pas, c'était impossible pour eux. Mais ils ont quand même beaucoup souffert, et pour ces Juifs de la joie de vivre et du soleil, avoir des nazis, c'était le seul pays hors d'Europe où il y a eu les nazis, hein, et qui, comme je vous l'ai dit, qui a été vraiment décidé à détruire les Juifs des terres d'islam, donc c'était vraiment leur...
C'était leur but,
hein. C'était leur but absolu. Il y a eu des gens qui ont été envoyés à Auschwitz. Il y a au cimetière du Borgel une stèle avec tous les morts Auschwitz. Il y en a quand même une vingtaine, une trentaine. Donc le fameux le champion de boxe Yung Perez. Mm-hmm.
Les femmes ont beaucoup souffert de la présence des Allemands, il y a eu des viols.
Il y a eu beaucoup de viols, il y a eu des pillages. Mm-hmm. À Djerba, le rabbin de la communauté a été tenu de donner énormément d'argent et évidemment, Rauf s'est présenté un samedi là-bas pour bien les humilier, pour qu'ils transgressent le Shabbat alors que c'est une communauté extrêmement pieuse et orthodoxe. Mais ils l'ont fait, les femmes ont donné leurs bijoux, etc. Heureusement, ils ont eu du bol, ils ont réussi à ramasser la première somme, et la deuxième, c'était le lendemain, et le lendemain, les alliés sont arrivés, donc vraiment, Dieu avait un œil sur la communauté de Djerba. Mais non, il y a eu vraiment des exactions, et puis c'était pénible, parce que si la bourgeoisie musulmane, dans son ensemble, emmenée par le B d'ailleurs, qui a été à tout point de vue exemplaire, a aidé ses amis juifs, a été plutôt très bienveillante, et s'est très bien conduit, en revanche, le peuple... excité par la propagande allemande, par la radio, aussi bien les Arabes musulmans que les Italiens d'ailleurs, dont beaucoup étaient fascistes et très pro-Mussolini, et on sait qu'il y avait une énorme colonie italienne à Tunis, ceux-là se sont très mal conduits, et ça a été vraiment des années, et je mets dans ces années, les années à partir du statut des Juifs, et qui a été appliqué en Tunisie aussi. Ça a été des années assez dures pour les Juifs tunisiens et par pudeur, ils en ont très peu parlé.
Très peu parlé. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans votre livre, c'est votre rapport avec la langue française, le rapport avec la lecture. Et en fait, on sent que vous vous êtes protégé un peu comme dans une bulle grâce à tous ces livres que vous lisiez depuis très jeune, vous avez appris à lire... très très jeune, c'est d'autant plus surprenant qu'à l'époque, bon, les livres français en Tunisie, c'était pas vraiment ce qui circulait le plus dans les maisons. Et puis, cette situation comme ça de réfugié au sein de votre bulle m'a fait penser un petit peu à l'Arche de Noé. Et vous savez qu'en hébreu, l'Arche de Noé se dit Tevat Noar, et que le mot Teva, ça veut dire le mot, mais le mot écrit. C'est comme si vous aviez déjà, très jeune, pris conscience de l'importance du mot écrit. Vous êtes réfugiée dans cette arche de Noé de livres, en fait, toute seule, hein, parce qu'autour de vous, personne ne... On vous respectait, on vous admirait, mais on ne comprenait pas trop cette passion que vous aviez pour la langue française et tous ces auteurs que vous lisiez. Ça m'a beaucoup parlé parce que, justement, à notre arrivée en France, on a été à l'école, on a eu la chance d'avoir l'accès à la culture, à l'éducation et à tous ces livres, à tous ces auteurs. Mais vous, c'était bien avant tout le monde.
J'ai eu la chance que mon père m'apprenne à lire quand j'avais 4 ans. Et il l'a fait parce que probablement je devais être très douée déjà et très demandeuse. On ne sait pas de quoi sont faits les enfants. Moi, en tout cas, c'était inscrit en moi. Et donc, très vite, on m'a donné des livres. Et plus je lisais, et plus on donnait des livres. Et en fait, j'étais un peu considérée comme le petit prodige. L'enfant, vous savez, on aime bien dans nos familles... avoir toujours un ou une surdouée. En général, c'est un. Et comme j'étais la fille, donc c'était moi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée dans ma vie, mais pour des raisons très différentes, évidemment personnelles et privées, mais aussi parce que c'est vrai que c'était... J'ai toujours su que j'écrirais. J'ai toujours su que... Ça a toujours été mon rêve absolu. Je ne sais pas, j'avais 7 ans, 8 ans, je disais que je voulais être écrivaine.
Ce rapport à l'écriture,
c'était évident pour moi. J'avais même pas. Vous savez, il y a des gens souvent disent mais c'est dur les enfants, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils veulent faire ça. Je ne me posais même pas de questions. C'était comme ça. J'allais écrire.
C'était une évidence.
C'était une évidence absolue.
Et vous avez réussi justement à aller jusqu'au bout de cette évidence pour vous, ce qui est vraiment formidable.
Et quand j'étais enfant, quand j'arrivais dans chaque classe, j'étais la première en rédaction, la première en dissertation, etc. Ça a toujours été pour moi, je sais pas, c'est comme l'air que je respirais.
Alors, je vais juste vous citer parce qu'il y a un passage comme ça, justement, qui parle de votre rapport à la langue française. Vous dites, cette langue française, ma langue, j'étais née dedans. Il n'y en avait pas d'autre. Elle m'avait bercée, calmée, nourrie. Elle m'avait fait grandir. Plus tard, elle m'a structurée, comblée, donnée des modèles et des valeurs. Elle a été mon territoire, mon pays, ma maison, mon ancrage. Il suffisait d'ouvrir un dictionnaire pour découvrir le monde, de lire ou d'écrire pour être consolée de tout. Avant même de venir en France, je l'ai habitée pleinement.
Oui, c'est vrai. Et je n'ai jamais appris l'arabe, je le regrette d'ailleurs, parce que ma famille le parlait, un peu surtout quand ils ne voulaient pas qu'on les comprenne. Mais le français, pour moi, ça a été une... je ne peux pas dire que c'est une bouée, c'est la terre que j'habite, c'est l'air que je respire, c'est vraiment ça. Mm-hmm. J'en vois pas d'autre.
Vous en parlez très bien dans votre livre. Alors, vous vous dévoilez beaucoup hein, dans ce livre. Je trouve même que vous avez beaucoup de courage parce que vous racontez des choses qui vous sont très personnelles. Vous n'étiez absolument pas obligé de le faire. Et vous avez voulu partager ça avec vos lecteurs. Vous vous êtes donné un petit peu et sur tous les sujets, c'est-à-dire que on découvre la famille, on découvre vos défauts, on découvre vos qualités, on découvre vos faiblesses. Et puis, tout ce trajet que vous avez fait pour comprendre votre identité aussi, ça, vous auriez pu également survoler, mais vous êtes allé au fond des choses. Et on sent en vous lisant que c'est un retour au cœur de votre passé familial, bien sûr, mais aussi une quête d'identité sur votre judaïsme, celui de votre famille. Impossible de séparer les deux parce que vous utilisez toujours le souvenir comme un outil de recherche, comme un outil de travail pour savoir qu'est-ce qui vous reliait au judaïsme. Alors, vous aviez bien sûr des mots très beaux où vous citez Solal d'Albert Cohen, hein, qui était le héros hein, de ce livre et qui voulait faire croire qu'il n'était pas un juif comme les autres, qu'il était un juif exceptionnel pour s'affirmer différemment d'Eoni puisqu'il les moquait. Et moi aussi, vous dites, comme Solal, j'ai voulu être une juive, pas juive. Et pourtant, vous avez retrouvé votre identité juive complètement.
Et je pense que je ne l'ai jamais perdue, en réalité.
C'est ça.
Je pense qu'elle était ancrée en moi. Je pense que... pour des tas de raisons, j'ai rejeté la religion. Quand j'ai découvert le mot judéité forgé par Albert Mimi, que je cite beaucoup dans le livre, parce que pour moi, c'est non seulement un immense écrivain, mais un écrivain extrêmement important, d'abord universel, mais aussi de la communauté des Juifs de Tunisie. Et on doit vraiment en être extrêmement fiers. J'avais pas le sentiment, je ne voulais pas être juive, je moquais les fêtes de famille, ma sœur aussi, mais tout en étant très accro quand même. Je me souviens qu'à notre époque, des années 70, un peu comme ça, à gaucho, on arrivait avec des kéfiers autour du cou pour faire pousser des hurlements à ma tante, ma chère tante.
Choquer les parents.
Voilà, exactement. Qui nous passait tout en réalité, parce qu'ils s'en fichaient complètement. Dans les familles juives, en réalité, moi j'ai un cousin qui s'est marié 4 fois avec une brésilienne, on a eu tout le monde à table dans les fêtes.
On veut que les enfants soient heureux.
On veut que les enfants soient heureux, bah, amène-nous une brésilienne, d'accord, tu nous amènes une sénégalaise, ok, on s'en fiche, c'est pas du tout je raccroche et je meurs, c'est viens et sois heureux mon fils ou ma fille. Donc il n'y avait pas de problème, simplement moi là j'ai voulu, c'est pas du courage, c'est au fond je me parle à moi-même comme vous l'avez souligné au début de notre entretien. Et je veux aller au fond des choses, et donc je les écris. Et d'ailleurs, peut-être courage, parce que ça m'a valu une crise d'eczéma monstrueuse quand j'ai terminé le livre. Mais je voulais vraiment aller au bout de moi et de ce que je pensais. Et il y a un mot qui est très galvaudé, très à la mode en ce moment, surtout dans les jeunes générations, c'est la déconstruction. Voilà, je voulais déconstruire pour remettre les pièces du puzzle ensuite et comprendre.
Et justement, par rapport à votre judaïsme, vous dites « Une table de Shabbat dressée un vendredi soir n'importe où dans le monde me bouleverse par ce rituel qui transcende les lieux. Ces rituels dont j'ai cru longtemps qu'ils ne m'importaient pas jusqu'à ce qu'ils prennent fin. » Ça, c'est très très fort, parce qu'en fait, le rituel, c'est ce qui nous reste pour nous unir les uns les autres.
En fait, c'est cette phrase que je trouve magnifique. Je crois que c'est d'Hélène Cixous qui dit « Puisque nous avons tout perdu, gardons la perte. » Et en fait, c'est vraiment ça. Moi, c'est vrai que je me suis rendu compte très tard que chaque fois que je vais à un Shabbat, que ce soit à Paris, que ce soit en Israël, j'ai fait des Shabbats à Vienne, j'ai fait des Shabbats aux États-Unis, j'ai fait des Shabbats un peu partout dans le monde. À chaque fois, je suis bouleversée par ces mots, par les mêmes, par l'intonation différente. La façon différente de les dire.
De ce qui se passe autour de la table.
Passe autour de la table. Ouais. Je ne suis absolument pas religieuse. Je suis vraiment, je ne sais pas si on peut dire laïque, parce que ce n'est pas tout à fait le mot. Je ne suis pas du tout religieuse. Mais ça m'émeut. Ça m'émeut parce que c'est un fil, et c'est un fil de transmission. Et je le trouve très important. Mes enfants sont à moitié juifs, à moitié catholiques. Juifs selon la religion juive, catholiques selon la religion catholique, puisque leur père est chrétien. Ils ont été élevés dans aucune des deux religions, mais je sais qu'ils sont très sensibles aussi à ces fêtes, à ce rituel, à quelque chose qui passe, qui a trait à la famille, mais qui a aussi trait au peuple juif
et à la transmission.
Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est très important.
Alors, on pourrait parler des heures, hein, surtout qu'on a tellement de choses en commun, bien toutes sûr. Les deux, Michel. Mais pour finir, j'aimerais qu'on parle de votre coup de foudre et de votre rapport avec Israël. C'est un coup de foudre, on va dire, assez récent.
Assez récent, c'est vrai.
Et c'est pas n'importe quel coup de foudre. Quand vous en parlez, on sent quel point d'abord c'est profond chez vous, c'est honnête. C'est sincère, c'est pas branché, hein, pour faire comme tout le monde. Et vous avez dit, dans le livre, justement, vous parlez du départ des Juifs tunisiens qui partent soit en France, soit en Israël, qu'il y avait même un petit groupuscule de Juifs tunisiens sionistes actifs qui avaient écrit à Herzl à l'époque pour le féliciter après le premier congrès juif de Bâle. Donc, on ne se rend pas compte à quel point il y avait un vivier de sionisme puissant en Tunisie. Et quelque part, vous le ressentez encore aujourd'hui. Alors, moi, je vis en Israël. Vous, vous habitez en France, mais vous venez très, très souvent en Israël. Vous avez beaucoup d'attaches là-bas. En quelques mots, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, quand Serge Moitié était venu en Israël une fois, il m'a dit « je suis rentrée à la maison ». Est-ce que vous avez ce sentiment?
Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. La première fois que je suis allée en Israël, c'était avec mon compagnon, qui est juif ashkénaze, personne n'est parfait, mais qui m'a vraiment…
On lui pardonne.
Qui lui connaissait Israël comme sa poche, puisqu'il y allait depuis sa naissance pratiquement. Son grand-père avait même vécu en Palestine à l'époque. Et donc, j'ai découvert avec lui, à travers ses yeux, ce pays. Et j'ai eu deux sentiments très, très forts. D'abord, rentrer à la maison, c'est-à-dire la familiarité, c'est-à-dire qu'à chaque coin de rue, trouver des visages qui me sont familiers, dont je pourrais dire, mais tiens, il ressemble à l'oncle de machin, il ressemble à la tante de truc. C'est pas simplement des séfarades, hein, c'était des ashkénazes, c'était toutes les pays, et puisqu'on parle de pays, j'ai tout d'un coup cette impression, la première fois que je suis venue en Israël, c'était en 1994, je suis d'abord allée à Tel Aviv, j'ai découvert Jérusalem, j'ai découvert et aimé Jérusalem bien plus tard, parce que c'était, au départ j'étais très hérissée par Jérusalem, et ce que je disais au début en parlant du cimetière, pour moi, Israël c'est l'histoire et la géographie du monde, et les gens sont vivants, voilà. Il n'y a pas de juif mort.
Enfin, vous avez commencé par une histoire de mort.
Voilà.
Et on termine
par une histoire de vivant. Et c'est ça qui me donne des frissons en réalité, même si c'est un pays où il y a la tragédie toujours présente et qu'elle peut frapper à n'importe quel moment, la mort, etc. Mais voilà, l'histoire et la géographie du monde. Et je ne dis pas seulement du monde juif, du monde, parce que les juifs ont essaimé dans le monde entier et qu'on retrouve toutes ces caractéristiques de culture, finalement, à laquelle ils se sont greffés, mais qu'on retrouve en Israël, des Irakiens, des Ouzbeks, des Russes, des Polonais, des Yéménites, enfin tous ces gens, et c'est d'une richesse et d'un intérêt, je n'en ai jamais fait le tour. Moi, je voudrais m'asseoir sur la taillelette, regarder les gens passer, les vieux, les jeunes, regarder leurs visages, les scruter, et regarder les vieilles personnes et leur demander quel est leur roman, parce que chaque personne est un roman à elle toute seule. Donc ça me fascine. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé mon amour pour ce pays a commencé. Il n'y avait pas forcément de sionisme de ma part, il n'y avait pas d'idée préconçue, il n'y avait rien. Il y avait juste cette évidence que je me suis assise et j'ai dit « oh là là ».
Alors bientôt, vous serez en Israël pour présenter votre livre à Tel Aviv et à Jérusalem. On sera ravis de vous y retrouver. Merci beaucoup, Michel Fitoussi, pour cet entretien. Alors, je rappelle que votre livre aux éditions Stock est déjà en vente. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies.
Et même sur les plateformes.
Et même sur les plateformes. Et on vous remercie.
Merci infiniment, Emmanuel.
Tes souvenirs se voilent. Ça fait comme une éclipse. Une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. Yalil, yalil, bibi yalil. Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil, yalil.